Et l'invité ce matin dans le 8-30 d'Alpe 1, Pierre Villard, bonjour.
Bonjour.
Président honoraire du mouvement de la paix dans les Alpes du Sud, co-porte-parole de ICANN France qui a été Nobel de la paix, c'était en 2017, on y reviendra. Il y a une conférence qui a lieu ce soir sur Gap, comment construire la paix. J'aimerais vous poser cette question. Selon vous, les appels répétés d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky, est-ce que ce sont des tentatives successives de parvenir à la paix?
Oui, bien sûr. Le président de la République française s'est inscrit dans une volonté de dialogue avec toutes les parties. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait est bien fait et qu'il n'y aurait pas d'autres initiatives à prendre. Mais en tout cas, il a tout à fait raison de ne pas rompre le dialogue. Pour une raison assez simple, de toute manière, c'est que tous les conflits finissent toujours par une négociation. Hein. Donc, autant la commencer le plus tôt possible, voire avant le conflit quand c'est possible. Et puis, on voit bien que de toute manière, ce conflit pose des questions géopolitiques, de sécurité du monde qui vont au-delà de la simple alternative entre la Russie et l'Ukraine. Mmh. Donc, la France est aussi concernée par cette sécurité collective qu'il faut construire.
Mmh. Lionel Gros disait « la diplomatie est l'arme des faibles ».
Ah non, au contraire, c'est la guerre qui est l'arme des faibles. Mmh. Souvent, on veut dépeindre les pacifistes comme des utopistes, mais en fait, les utopistes, c'est ceux qui pensent qu'on peut régler les problèmes du monde à coup de guerre et de violence.
On a du mal quand même à raisonner Vladimir Poutine en ce moment. C'est lui qui montre quand même la tentative la plus forte.
Non, mais la question, c'est pas d'être pour ou contre Poutine. La question, c'est comment on résout le conflit actuel, et avec qui est-ce qu'on dialogue?
On est
bien obligé de dialoguer avec les dirigeants du monde, quels qu'ils soient.
Ce sont justement des questions que vous poserez ce soir, on va revenir
bien
là-dessus,
sûr.
Mais quand Vladimir Poutine parle de dénazifier ce pays qui est l'Ukraine, ça fait penser au documentaire du journaliste Paul Moreira. Il avait mis, lui, en avant la mise en danger du pays par des groupes d'extrême droite, la présence d'une milice nationaliste ukrainienne, notamment responsable du massacre d'Odessa. C'était en mai 2014, 45 personnes qui ont été tuées dans un incendie provoqué par les cocktails Molotov de milices nationalistes ukrainiennes. Ce qui fait dire aujourd'hui à certains que Vladimir Poutine a raison dans son argument, celui de dire « oui, mais moi je vais dénazifier ce pays qui est l'Ukraine ».
Ben, en fait, l'existence de groupes nazis en Ukraine est une réalité, de manière beaucoup plus forte que dans d'autres pays européens, y compris qu'en France, où malheureusement c'est une mouvance qui existe aussi. Ceci étant, la bonne réponse n'est pas d'aller bombarder ou envahir l'Ukraine. Donc là, on en revient toujours à la même chose, c'est comment on règle les problèmes. Voilà. Qu'il y ait des problématiques néo-nazis en Ukraine, oui. Qu'il y ait des civils ukrainiens qui en soient victimes, oui. Enfin, le conflit du Donbass, quand même, c'est 15 000 morts. Pour l'instant, malheureusement, on n'est pas là pour comptabiliser les morts, et c'est pas le nombre de morts.
Et pas les comparer non plus.
Oui, et puis c'est pas le nombre de victimes qui donne la crédibilité à un conflit. Hein. Mais on a laissé des gens se faire assassiner, hein, sans rien dire, ou en tout cas avec une réponse relativement faible. Et puis vous voyez, ce matin, on apprend que hier, en Arabie Saoudite, il y a 80 personnes qui ont été décapité, bon, on ne dit pas pour autant qu'il faut remettre en cause les discussions avec la nation, l'État Arabie Saoudite. Voilà. Mmh. Donc je pense qu'il faut différencier les deux choses, et de toute manière, quel que soit le contexte, il y a eu une intervention militaire illégale et en contradiction avec la Charte des Nations Unies, ce n'est pas acceptable.
Mmh. Les accords de Minsk, on en parle énormément de ces accords. Alors, du nom de la
On en parle beaucoup maintenant.
Maintenant, du nom de la capitale biélorusse, signé en 2014, donc ça date en effet 2015, c'était la seconde version, entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. La médiation était franco-allemande, et ça avait un objectif, mettre fin au conflit qui ravageait l'est du pays. C'est un échec. Est-ce qu'ils ont été respectés de part et d'autre?
Alors, il semblerait que non. En tout cas, il y a une accusation mutuelle de ne pas les avoir respectés. Mais là encore, ça ne peut pas servir de prétexte et d'explication à la guerre.
Mmh. Et ce serait quoi pour vous, aujourd'hui, le pire scénario?
Écoutez, Je sais bien que c'est un peu à la mode, cette question, et excusez-moi, c'est pas du tout méprisant à l'égard de votre question.
Allez-y, allez-y.
Mais, non, mais je veux dire, j'ai pas tellement envie de m'inscrire là-dedans. Parce que le pire des scénarios actuellement, hein, c'est l'utilisation de l'arme atomique et finalement, je dirais pas l'explosion, parce que c'est pas l'explosion en termes physiques du terme, hein, mais une catastrophe nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, tiens, on dit, tiens, la Russie a l'arme nucléaire. Tiens, il y a des armes nucléaires américaines autour de la Russie. Bon. Tiens, il y a un danger. Bah, c'est bien pour ça qu'on a travaillé à l'élimination des armes nucléaires. C'est bien pour ça qu'il y a un traité d'interdiction qui existe depuis maintenant un peu plus d'un an.
Le TIAN.
Le TIAN, oui. Mm-mm. Pour lequel on a obtenu le prix Nobel de la paix.
Et avec ICAN, justement.
Avec ICAN, voilà. Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut agir pour l'élimination des armes nucléaires et pour un système de sécurité collective dans lequel tout le monde se retrouve. Mm. Le monde de 2022. C'est pas le monde de 1914, de 1945 ou de 1936, même d'il y a 20 ans.
Mais on voit bien quand même aujourd'hui que Vladimir Poutine menace avec ses armes nucléaires, notamment Satan 2, où il allait beaucoup plus loin au niveau des avancées. Quel pays, aujourd'hui, pourrait dire, face à la menace de Poutine, « Ok, ben, moi j'y vais, j'enlève mon arme nucléaire. » Quel pays serait assez fou, permettez-le-moi, de dire ça aujourd'hui, de s'avancer.
Mais aujourd'hui, sur la planète, il y a 193 États. Il y en a 184 qui renoncent à être défendus par l'arme nucléaire. C'est ceux qui ont l'arme nucléaire, qui sont très, 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 très minoritaires. Ils sont 9. Donc, la question, elle est dans l'autre sens. Si l'arme nucléaire est une arme utile, alors pourquoi l'interdire à l'ensemble des pays du monde ?
C'est une arme de dissuasion aujourd'hui, l'arme nucléaire. Non.
Non. L'arme nucléaire est une arme de domination. Elle donne des pouvoirs. Elle est dissuasive pour ceux qui l'ont, effectivement. Mais elle est agressive pour ceux qui ne l'ont pas. Donc en fait, la poignée d'États qui aujourd'hui disposent de l'arme nucléaire s'en servent comme une arme de pouvoir, comme une arme de domination. Sauf que on est à une situation telle qu'aujourd'hui, cette arme, elle peut être utilisée. Donc, tous les discours autour de « oui, mais on ne va pas s'en servir, ça ne craint rien », excusez-moi, mais c'est de l'hypocrisie. Et encore, là, je ne mets pas du tout dans la balance ce que ça représente. La France, par exemple, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, aura doublé ces crédits pour l'armement nucléaire. On est passé de 3,5 milliards par an à près de 7 milliards. Vous voyez, on nous fait pleurer sur les armées pour qu'il manque de l'argent, on nous explique qu'il faut augmenter le budget militaire. Mais, excusez-moi, mais c'est du pipeau tout ça.
Est-ce que vous craignez justement qu'il y ait une prolifération, avec ces menaces de Vladimir Poutine, est-ce que vous craignez qu'il y ait une prolifération de l'arme nucléaire ? C'est-à-dire que les pays qui l'ont veuillent en avoir un peu plus, de manière plus puissante, et que des pays qui ne l'ont pas veuillent cette arme ?
Non, parce que en fait, la réalité, c'est qu'il y a une décélération. Depuis la fin de la guerre froide, on est passé de 75 000 armes nucléaires dans le monde à peu près 15-16 000 actuellement. Voilà. Évidemment, ce sont des armes qui sont plus dangereuses aujourd'hui. Une arme nucléaire aujourd'hui fait beaucoup plus de dégâts que ce qu'avait fait l'arme d'Hiroshima et Nagasaki. Mais aujourd'hui, au niveau mondial, il y a une dynamique en faveur de l'élimination des armes nucléaires. En France, on s'en rend pas bien compte parce que comme on est une puissance atomique et qu'il y a quand même, excusez-moi, c'est difficile de porter ce débat. Hein, et je remercie Alpe 1 de permettre que ce débat ait lieu sur vos ondes de temps en temps parce que on en parle quand même. Je sens que c'est un sujet sur lequel vous avez fait des recherches. Enfin, je veux dire, vous savez de quoi vous parlez, mais c'est pas obligatoirement le cas dans tous les grands médias.
Là, pensez, après ce conflit russo-ukrainien, est-ce que vous pensez qu'on arrivera à tenir le tien ? C'est-à-dire que les 9 pays qui ont aujourd'hui l'arme nucléaire disent « Allez, hop, on s'en dessaisit ».
C'est un des enjeux des années à venir.
Comment on peut le faire ?
Par la pression populaire, par la conviction politique. Aujourd'hui, les gens qui sont pour l'élimination des armes nucléaires sont majoritaires sur la planète. On est majoritaire au niveau des États, majoritaire au niveau des institutions, majoritaire au niveau de la population. Il faut que cette majorité d'idées devienne majorité politique. Et on y travaille.
Dans les candidats à la présidentielle, est-ce qu'un candidat a dit « je renoncerai à l'arme nucléaire » ?
Oui, actuellement, il y en a, à ma connaissance, au moins 3. Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Monsieur Poutou, alors avec des conditions différentes. Yannick Jadot, je ne l'affirmerai pas dans la dernière période parce qu'il y a eu des évolutions de la part des écologistes, mais en tout cas les écologistes font partie de la coalition pour l'abolition des armes nucléaires et soutiennent le TIAN.
Faut-il sortir de l'OTAN ? Alors l'OTAN a été souvent annoncé comme une solution, souvent dénoncé aussi, hein, parce que vous parliez de ces armes qui sont aux portes de la Russie. C'était l'un des arguments aussi de Vladimir Poutine de dire « l'OTAN me met la pression, je remets la pression, mais sur l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'OTAN ».
Mais c'est là toute l'hypocrisie. C'est
une façon détournée.
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que l'Ukraine ne fait ni partie de l'Union européenne, ni partie de l'OTAN.
Voilà. Donc il ne craint pas grand-chose.
Vladimir
Poutine, il ne craint pas grand-chose, il ne craint pas d'impact, en tout cas de réponse, ni de l'OTAN, ni de l'Union européenne, ils ne peuvent pas intervenir.
Eh ben, c'est pas si simple que ça, puisqu'on voit quand même bien qu'il y a tout un tas de gens qui réclament l'intervention de l'OTAN, alors que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. On a eu l'argumentation dans les années précédentes que, en fait, quand un pays de l'OTAN était attaqué, il fallait que tous les autres réagissent. Mais là, en fait, la question, c'est est-ce que l'OTAN doit intervenir ou pas pour un État qui n'est pas membre de son alliance ? Rapidement, l'OTAN a été créée en 1949, dans un contexte international qui était l'après-guerre froide. Hein, pas l'après, enfin l'avant.
L'avant-guerre froide.
Voilà, enfin, l'après au sens pré-guerre froide, avant-guerre froide. Voilà. La réponse a été la création du pacte de Varsovie 5 ans après. Mmh. Hein, voilà. Et en 1991, à l'éclatement de l'Union soviétique, le pacte de Varsovie s'est dissous. À ce moment-là, pourquoi l'OTAN, qui était une alliance contre le pacte de Varsovie, est restée ? L'OTAN, aujourd'hui, est la seule alliance militaire qui existe sur la planète. L'OTAN se comporte comme un gendarme du monde. Imaginez que vous êtes dans une copropriété où il y a 50 copropriétaires. Il y a l'Assemblée générale des copropriétaires, puis à côté de ça, il y a un petit groupe de 8-9 personnes qui décident de faire ce qu'elles veulent, de s'armer, de mettre des digicodes, bon, c'est ça l'OTAN. Vous avez l'ONU qui est aujourd'hui qui est et qui devrait être de plus en plus en fait la grande assemblée nationale du monde.
C'est
ce
ça
qui est
l'institution internationale qui pourrait aujourd'hui avoir le plus de poids dans ce conflit.
C'est l'ONU qui doit avoir. Et la question des capacités d'intervention militaire de l'ONU, elle se pose.
Ouais.
Elle se pose. C'est-à-dire que l'ONU aujourd'hui, il y a des casques bleus, mais les casques bleus sont déployés sur décision au cas par cas. Mm-hmm. Voilà. Peut-être qu'il faut réfléchir.
À l'intervention des casques bleus.
À l'intervention des casques bleus et à l'existence d'une force internationale non partisane, indépendante, sous mandat des Nations Unies. Voilà. L'OTAN, c'est une alliance partisane. L'OTAN, c'est 30 États. Au nom de quoi ces 30 États feraient la loi sur la planète ?
Merci beaucoup Pierre Villard. Désolé, on arrive au terme de cet entretien. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous ce soir 19h à Gap à la Maison des Habitants. Et donc Pierre Villard, vous serez là, un président honoraire du mouvement de la paix, co-porte-parole de ICAN France. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.